7 milliards de voisins.
Coucou les voisins et voisines, vous êtes à Dakar.
Ici à Diamé, même plus particulièrement au CFBTP.
Les voisins, les voisines.
C'est sur RFI.
On est ensemble.
Avec Emmanuel Bastide.
On est ensemble.
Bienvenue 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, nous avons installé notre studio au Sénégal, à Diamniadio, à la sortie de Dakar et de ses banlieues, dans un centre de formation professionnelle du bâtiment travaux publics, pour parler finalement de l'essentiel, l'emploi des jeunes. Avec nos invités, je vous présente Mamadou Tala, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Bonjour Mamadou Tala.
Bonjour et bienvenue au Sénégal.
Merci d'être dans notre émission. Vous avez effectué une grande partie de votre carrière à la fois au Sénégal et en France dans l'enseignement technique.
Oui.
Vous êtes ultra légitime sur ce poste. Vous avez d'ailleurs été formateur d'enseignants dans les lycées professionnels en France.
D'élèves et d'étudiants également dans les Yvelines, et vous êtes à l'Académie de Versailles.
Spécialiste de la robotique et domotique?
Non, j'en ai fait, oui. Robotique, domotique, automatisme, informatique industrielle, électrotechnique, le génie électrique.
Merci d'être parmi nous, monsieur le ministre. Awan Ndiaye Sania, directrice du Centre de formation métiers portuaires et la logistique. Bonjour Awan Ndiaye Sania.
Bonjour.
Sont surtout des métiers d'hommes?
Oui, mais de plus en plus les femmes embrassent ces métiers.
Franck Tonini également autour de la table, enseignant en commerce international à l'Université de Lille 1, délégué général du cluster Sénégal-Afrique de l'Ouest, porté par la région Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Franck Tonini.
Bonjour, bonjour aux 7 milliards de voisins.
Votre cluster fait travailler finalement ensemble des chefs d'entreprise sénégalais et français pour améliorer la formation des jeunes et trouver des débouchés commerciaux aussi à des PME du nord de la France, c'est bien ça?
Exactement, c'est une communauté de projets, une communauté d'acteurs rassemblant des entreprises de France, du Nord-Pas-de-Calais, des entreprises sénégalaises, et ceci dans un objectif, aider la jeunesse à trouver un emploi.
Et justement, autour de la table, on a deux exemples dans cette émission. Abdou Fall, patron d'une PME d'électricité, 32 ans, vous présidez à la COSELEC.
Oui, bonjour.
Donc, vous êtes patron de PME au Sénégal.
Oui, exactement.
François-Yves Jolibois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien alpiniste. Aujourd'hui, vous êtes patron d'une entreprise de travaux en hauteur et de maintenance de bâtiments avec technique d'escalade. Votre entreprise s'appelle
Résojade.
Voilà.
Donc en effet, j'ai la chance de vivre de ma passion. Donc j'ai juste changé les montagnes en building et je vais essayer de transmettre cette passion au Sénégal.
Donc il y a un vrai marché de la maintenance des bâtiments ici au Sénégal?
Ah, il y a un véritable marché de la maintenance en général, je pense, et de bâtiments en particulier. Donc on a tendance à construire, démolir et reconstruire. Et si on peut transmettre la maintenance de bâtiments, ça va permettre une durée de vie et donc un bien meilleur point de vue environnemental pour tout ce qui est bâtiment.
À condition donc que les jeunes soient formés, et nous allons en parler. Passer de bac plus 3 à bac moins 3, et si c'était la solution finalement pour trouver un travail, moins diplômé mais mieux formé, c'est tout de suite chez 7 milliards de voisins. Et dans l'immédiat, je vous propose d'écouter les témoignages de ces étudiants. Ils ont quitté l'université pour se former au métier de l'agroalimentaire.
Bonjour, je m'appelle Chara Lou. Je suis actuellement stagiaire en deuxième année en qualité de chef d'équipe de fabrication. Et aussi, j'ai eu à faire des études en biologie à l'université Cheikhanta Diop de Dakar. J'ai fini ma licence, je voulais faire un master, mais je me suis dit qu'ici, ça prend beaucoup de temps, donc je vais arrêter un peu. Pour moi, c'est pas trop reculé parce que intégrer le milieu de l'entreprise, ça vaut plus que de continuer les études à long terme. Bon, je suis satisfaite parce que j'ai eu à apprendre beaucoup de choses en deux ans. Franchement, je ne regrette pas. Actuellement, je fais chef d'équipe de fabrication, mais je veux faire de la qualité, de l'assurance qualité. J'ai eu à faire Nestlé Sénégal et j'ai beaucoup adoré. J'aimerais bien aller là-bas.
Je me présente, je suis Babacar Gueye. Je suis en première année, chef d'équipe de fabrication. Je viens de l'université. J'ai eu la licence cette année à l'université de Dakar en biologie, chimie et géosciences.
Et ta famille, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as dit que tu allais reculer d'au moins 4 ans?
Elle m'a seulement soutenu, hein, parce qu'elle m'a dit que la formation, elle va t'aider à mieux intégrer l'entreprise. Et comme j'ai longtemps aimé l'agroalimentaire, quand j'ai vu la formation et la plateforme, bon, je me suis dit que peut-être c'est la bonne chose de faire cette formation.
Que pensent tes camarades à l'université de ce que tu as choisi, de ton choix, de ton parcours?
même eux, ils veulent faire une formation professionnelle aussi. Parce que là-bas, on donne des connaissances seulement, mais il n'y a pas de stage. Ici, on a la possibilité de faire des stages, d'intégrer des inspires, de savoir le milieu professionnel, d'avoir une certaine bagage intellectuel aussi.
Oui, je m'appelle Lavangom, j'ai 23 ans. Je suis stagiaire en première année en formation de chef d'équipe de fabrication ici. Je suis venue de l'université. Je devais faire cette année d'ailleurs la licence. Mais une fois sortie avec ta licence, tu ne peux pas faire grand chose aussi.
Tes camarades, ils ont un peu le même parcours que toi. Ils viennent presque tous de l'université.
Il y a certains qui viennent de l'université, mais d'autres, ce sont des niveaux inférieurs, genre le lycée. Vu que ce sont les mêmes compétences qu'on vous donne, l'essentiel c'est de les comprendre, de les pratiquer. Pour chaque filière, on sélectionne au nombre de ces stagiaires, que ce soit agent de fabrication, chef d'équipe de fabrication, mais aussi conducteur de machines automatisées, et techniciens aussi. On prend les meilleurs élèves, je vais dire. C'est pourquoi les gens qui sortent là peuvent s'insérer facilement en entreprise. Dans 5 ans, pourquoi pas être un chef d'équipe de fabrication dans une très grande entreprise? C'est ça mon rêve, quoi. Et je sais que je peux le réaliser quand je travaille dur pour y arriver.
Mamadou Tala, ministre de la formation professionnelle, comment vous réagissez à ces témoignages d'étudiants qui ont quitté l'université pour reculer, c'est quand même le mot, et oui, pour être sur les bancs à côté de lycéens qui n'ont même pas le bac pour certains?
Sauf que je suis très heureux parce qu'en fait, depuis un an et demi, je ne parlais que de ça. La mobilité dans les formations professionnelles. Parce qu'avant, on ne parlait que de mobilité physique ou géographique. Je leur ai dit non, il faut opérer un changement, il faut une réorientation. Mmh. Et donc, je suis heureux de constater que dans nos centres de formation, ce message commence à être compris. Et j'encourage donc ces jeunes. Parce qu'au Sénégal, ce que nous avons de très bonnes écoles dans le supérieur et de très bonnes écoles également au niveau, disons, tout ce qui est élémentaire. Mais entre les deux, c'est là où il y avait le ventre mou, c'est là où il n'y avait rien.
Mais il n'y a pas quelque chose qui cloche tout de même qu'un jeune abandonne l'université, généralement, parce qu'il y échoue et retourne sur les bancs de l'école à un niveau bac-2, bac-3?
Non, en
réalité, est-ce que l'État n'a pas perdu de l'argent en même temps à accueillir ces jeunes à l'université?
Moi, je crois que vous avez raison sur ce plan-là. C'est depuis très longtemps qu'on n'a pas su anticiper très tôt par rapport à l'orientation des jeunes depuis donc la seconde, la première, etc. Et du coup, tout le monde allait vers l'université et on vient de se rendre compte que ce n'est pas la solution. Je vous dis qu'au Sénégal, il n'y a que 48 000 apprenants dans la formation professionnelle. Au moment où nous avons pratiquement 40 à 50 000 bacheliers chaque année qui vont à l'université. Et c'est cette orientation, cette réorientation qu'il faut faire. Quoique au niveau même de l'université aujourd'hui, nous sommes en train d'installer des instituts supérieurs d'enseignement professionnel.
Et des licences pro, et des notamment licences grâce à des entreprises privées qui implantent des formations clés en main.
Voilà.
Réaction pour vous à Wandia Isania. Dans votre centre, vous, puisque vous dirigez un centre qui est dédié à la logistique portuaire, est-ce qu'une partie aussi de vos apprenants viennent de l'université?
Effectivement, je confirme. Et aujourd'hui, pour cette quatrième promotion en conduite, où c'est un niveau troisième secondaire, on a la moitié des stagiaires qui viennent de l'université. Je pense que la vocation de ces centres sectoriels, c'est de former des jeunes, c'est de leur donner un métier qui leur permette de s'insérer dans la vie active. Et aujourd'hui, le rêve de tout jeune, c'est de pouvoir travailler et de gagner sa vie convenablement. Mmh. C'est ce qui oriente ces jeunes à aller chercher un métier, à s'insérer dans la vie active.
Franck Tonini, les jeunes, on est quand même sur un choix par défaut au départ, vous qui travaillez sur le sujet là depuis plusieurs années.
Moi je me félicite de ce que viennent de dire les jeunes. Je ne sais pas s'ils ont reculé en fait, je pense qu'ils ont plutôt diversifié leur parcours. Ils sont venus le compléter, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas utile de continuer vers un bac plus 5, un bac plus 7 qui n'aboutirait pas forcément à un emploi. Maintenant, le temps de l'université n'est pas forcément un temps perdu, mais il n'était peut-être pas suffisant. Il était nécessaire, et donc de le compléter par une maîtrise technique, le fait de découvrir un métier pour justement créer un emploi, eh bien moi je pense que justement ces jeunes doivent nous inspirer, y compris au niveau des politiques qu'on doit conduire, parce qu'ils sont la synthèse. Une formation supérieure, certes, mais peut-être pas seulement, et qu'effectivement apprendre un métier, c'est mieux pour trouver un emploi.
Mamadou Tala, les centres dont nous parlons, dont nous avons entendu les jeunes qui apprennent un métier, ce ne sont pas les lycées techniques, ce qui veut dire que quand les jeunes se dirigent vers ces centres qui accueillent une centaine
centaines d'étudiants chacun. À l'heure actuelle, on a trois centres, hein, pour l'agroalimentaire, pour les métiers de la logistique portuaire, et puis le bâtiment. Il y en aura d'autres. Qui vont voir le jour, parce que les besoins sont immenses. Mais pour l'instant, ces centres ne délivrent pas de diplôme d'État. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas avec un BTS, on n'en sort pas avec un BEP.
Délivre des titres de branche, des titres donc professionnels acceptés par le secteur privé. Je crois que c'est une réponse qu'il fallait donner tout de suite à la jeunesse. On parlait du chômage et la particularité de ces centres, disons, c'est une gestion tripartite. Il y a l'État, il y a les centres, donc l'administration, mais il y a également les entreprises et qui demandaient des qualifications professionnelles.
Ah, Wendy, Sania, il faut qu'on dise un petit mot sur comment les jeunes peuvent intégrer ces centres qui, pour l'instant, accueillent vraiment une poignée d'étudiants au regard de la masse d'étudiants qui attendent d'être formés. Hein, on est à peu près quoi, 400 étudiants pour ces trois centres, un peu plus.
Voilà, cette poignée d'étudiants, comme vous le dites, s'explique. Je prends le cas chez nous où c'est la conduite de véhicules de transport. Dans un camion de transport, on ne peut pas mettre ça en apprenant.
Vous avez combien de candidats chaque année pour entrer dans votre centre et vous avez combien de places?
Qui évolue vite, de 495 à la première sélection, on est passé à presque 3000 à la quatrième candidat.
Pour 3000 candidats,
ouais.
Pour combien de places?
64.
Ce qui veut dire que l'image d'enseignement professionnel n'est pas si mauvaise quand on présente un centre qui fonctionne, sauf qu'il n'y a pas de place.
Il n'y a pas de place parce que tout simplement, dans l'enseignement technique ou dans la formation professionnelle, il faut des formateurs bien formés, il faut des structures, il faut du matériel et il faut également du consommable pour pouvoir faire fonctionner la machine.
C'est ce qui explique... Pour l'instant, l'État finance la majeure partie du coût par étudiant. Les étudiants payent, mais beaucoup moins que le coût par tête d'étudiant.
Exactement, c'est l'État donc qui finance, qui participe, qui continue donc à accompagner ces trois centres sectoriels. On devrait arrêter depuis, je crois, l'année dernière, mais on va continuer. Mais parallèlement à ça, nous avons également d'autres centres de formation professionnelle et d'autres lycées techniques. Il y a une dizaine de lycées techniques pour qui il faut des formateurs, il faut du matériel, il faut des machines. Et c'est ça la difficulté de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Oui.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, nous sommes en périphérie de la ville de Dakar à Diamniadio, passé de bac plus 3 à bac moins 3. Et si c'était l'avenir pour trouver un emploi, quelle insertion professionnelle pour l'emploi des jeunes? Voilà la question que nous posons avec nos invités autour de la table. Combien de jeunes trouvent un emploi en sortant d'un an ou deux ans dans ces centres? Je vous pose la question à vous, Madame Sania, qui dirigez le centre de formation aux métiers logistiques et portuaires.
Aujourd'hui, le taux d'insertion pour les métiers de conducteur tourne entre 90 et 100%, ce qui signifie que le besoin est là. Mais ce qui explique aussi ce fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est des niveaux où il n'y avait pas d'école qui formait avant. Tous ceux qui exerçaient ces métiers étaient formés dans le tas.
Attendez, pour être conducteur d'engin, transporter des containers qui arrivent, qui sont débarqués au port, c'est quand même une vraie responsabilité. On était formés sur le tas au Sénégal.
Ouais.
Aucune formation formelle.
Pas du tout.
Vous êtes la première,
ouais,
avec ce centre.
Dans l'Afrique subsaharienne.
En Afrique subsaharienne, pour des jeunes qui conduisent des grues également.
Ouais.
Et en même temps, il y a quand même un problème de perception des métiers techniques au Sénégal. Abdou Fall, vous êtes patron d'une PME. Awandia Isania, vous êtes dirigé un centre de formation technique. François-Yves Jolibert, vous êtes également patron de PME, mais en France. Quelle est votre analyse sur cette perception des métiers techniques, que ce soit au Sénégal d'ailleurs, et peut-être en comparaison avec la France? Doufal.
Ben écoutez, moi je crois en l'auto-emploi, parce que pour moi une compétence forcément donne la possibilité d'exercer un métier. Aujourd'hui, dans le marché du travail, attendre qu'une autre personne vous recrute, je pense que c'est une perte de temps. Une personne avec une compétence peut elle-même proposer ses prestations à qui en a besoin. Donc aujourd'hui, on le voit tous les jours ici dans ce pays, des personnes n'ayant pas forcément été à l'école, mais avec un bagage, qui se lèvent tous les jours pour exercer des métiers avec lesquels ils arrivent à s'en sortir.
François-Yves Jolibois, vous êtes patron de PME en France, hein, spécialisé dans les travaux en hauteur, vous fermez en ce moment des jeunes au Sénégal. Est-ce qu'il y a une différence de perception des métiers techniques? Comment vous sentez ça ici au Sénégal?
Je pense qu'il y a une grosse différence de perception, mais je pense que c'est pas forcément lié aux métiers techniques, mais je pense que les gens sont ici bien plus proches de la réalité. Donc ils ont un objectif qui est de trouver un travail et ils se donnent les moyens de le faire. Ce qui est pas forcément la vision que j'ai par rapport à la France, où je pense que justement on va chercher des années d'études, mais juste pour un idéal qui n'existera jamais. Et qu'ici, je pense qu'on a des gens qui sont bien plus proches des réalités. En effet, ça permet d'avoir des jeunes qui ont un niveau d'études qui est quand même relativement élevé par rapport aux compétences qu'on va pouvoir leur transmettre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'avoir une évolution beaucoup plus rapide dans une structure comme la mienne. Moi, ce que je cherche à avoir, c'est des gens autonomes. Et donc, on recrute vite des cordistes pour devenir des chefs de chantier, qui deviendront des conducteurs de travaux, qui deviendront des directeurs techniques. Et donc, avoir cette compétence-là à la base, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant.
J'ai vu des filles, là, à qui vous faisiez également les démonstrations, les thèses. Dans le bâtiment, en France, on n'en voit pas beaucoup, dans le BTP.
On en voit plus en tant que conducteur de travaux, en effet, qu'en tant que personne réalisant
et
des
ici
travaux. Ah ben ici, on a non seulement des filles dans la partie réalisation, mais en plus avec une NIAC vraiment extrêmement intéressante.
Franck Tonini, qu'est-ce qui manque finalement pour changer de paradigme, changer de perception?
Bah déjà, il ne manque pas grand-chose. Peut-être une perception renouvelée des familles. Effectivement, moi je vois des jeunes qui comprennent que l'emploi se fera par la synthèse d'un bon niveau de formation, mais aussi par la maîtrise d'un savoir et aussi d'un savoir-faire. Et puis pour ceux qui voudront se lancer dans la passionnante aventure de l'entrepreneuriat, il faudra aussi qu'ils aient un savoir-être. Mais les familles, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais c'est aussi vrai en Afrique qu'en Europe. Quel papa, quelle maman ne souhaite pas que son fils, sa fille, fasse un bac plus 5, voire même un bac plus 8? Et donc, c'est aussi aux organismes, aux médias aussi, d'expliquer que la réalité économique n'est pas forcément liée à ce niveau. Et que, en fait, c'est l'économie intermédiaire qu'il faut bâtir. Aujourd'hui, on a soit des gens qui sont dans des fonctions manuelles de base, informelles, soit des très grands organismes. La jeune fille disait tout à l'heure, Nestlé, c'est bien. Mais toute l'économie africaine ne peut pas reposer que sur des grands groupes.
Mais vous voyez, mais les jeunes continuent de rêver intégrer un grand groupe ou une filiale d'un grand groupe. Donc
ça change, puisque en fait, vous avez tous les jeunes qui veulent créer une entreprise. Moi, quand je fais dans des audits dans les centres de formation, quand je fais des audits dans à l'université, vous avez quand même une génération qui à 80-90% veut être entrepreneur. Tous les jeunes ne veulent pas non plus créer Nestlé et concurrencer Nestlé, mais créer leur unité à l'image des chefs d'entreprise.
Oui, mais tous ont-ils la possibilité, le talent, la capacité de devenir entrepreneur?
L'économie et l'avenir le diront. Mais le fait de s'engager dans cette dynamique entrepreneuriale, c'est déjà en soi un signe très encourageant. L'essentiel du développement économique de l'Afrique passe par ces économies intermédiaires, par ce tissu de PME-PMI. Et les acteurs, eh bien, ce sont les jeunes qu'on a entendus. Et ce sont les pionniers d'une nouvelle tendance.
Mamadou Tala, pendant longtemps, on a quand même eu l'impression au Sénégal, et pas seulement sur tout le continent africain, à quelques exceptions près, que la formation professionnelle pour les jeunes, c'était vraiment une formation au rabais. Il n'y avait pas d'investissement, il y avait des machines obsolètes, pour pas dire complètement hors service. Et donc, c'était vraiment la voie de garage. Là, vous avez des centres innovants qui accueillent encore une goutte d'eau d'étudiants. Comment vous allez changer d'échelle?
Que ça soit en Afrique ou même en Europe ou partout, quand on parle de la formation professionnelle, il y a quand même ces préjugés qui existaient, surtout en France à un certain moment. Mais qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un changement. On s'est inspiré également du modèle suisse et du modèle allemand pour dire qu'il est possible de faire autre chose. Et heureusement, cette volonté politique est suivie directement d'actions, d'actes. Pour une fois, nous pouvons dire que la formation professionnelle et technique est connue au Sénégal et acceptée. On commence donc à éliminer ces préjugés. Nous, quand on était élèves dans nos lycées techniques, quand j'étais en seconde ou première, mais à la récréation, quand on sortait avec nos blouses bleues, on était montré du doigt en disant, voilà, c'est un mécanicien, c'est démonisé.
Est-ce que pour revaloriser, il faut devenir sélectif dans l'enseignement technique ou pas? Comme le sont ces centres, 3000 candidats pour quelques places?
À mon avis, ce n'est que le début. Je crois que si on atteint notre objectif, il y aura beaucoup plus de jeunes dans nos centres. Parce que en dehors donc de ces 300 sectoriels, même dans les autres centres également, on est obligé de faire des concours parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors la réponse, ce sont ces lycées professionnels que nous voulons installer au Sénégal. Ce sont également plus d'une centaine de centres de formation professionnelle de proximité à l'échelle nationale.
Vous restez avec nous, suite de l'émission juste après le flash, passez de bac plus 3 à bac moins 3. Ici, c'était l'avenir pour trouver un travail, on va en discuter juste après le flash dans 3 minutes. Restez avec nous les voisins et les voisines sur RFI.
Vous êtes chez RFI, 7 milliards de voisins à Dakar.
Bienvenue, 7 milliards de voisins, on est sur RFI. Nous sommes à Diamniadio. Vous êtes à l'écoute. Merci.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Émission enregistrée à Dakar, à Diamniadio, dans un centre de formation professionnelle du bâtiment. Après les ambitions de l'école pour tous, le Sénégal, tout comme une bonne partie du continent, s'interroge. Quels emplois pour les jeunes ? C'est vrai que c'est devenu le sujet du moment des gouvernements et des bailleurs de fonds. Nous allons d'ailleurs en parler. L'Agence française de développement a financé 3 centres de formation professionnelle dont nous parlons aujourd'hui. Mamadou Tala, ministre de la formation professionnelle, vous nous faites le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui dans cette émission. On discute des enjeux de la formation professionnelle pour l'emploi des jeunes. Awandiaï, vous dirigez le centre de formation aux métiers portuaires et logistiques. Et puis on a assisté hier au centre des métiers du bâtiment à une démonstration de travaux en hauteur avec les techniques de l'alpinisme. Et je dois dire que les étudiants étaient tout à fait enthousiastes.
Tu lui avais montré au sol ?
Moi c'est Bicente Mendy. J'ai 26 ans. J'étais étudiant ici dans ce centre. Mais tout d'abord, j'ai commencé ma formation il y a de cela 7 ans. Après les études d'enseignement général, j'ai décidé de faire le milieu de génie civil. J'ai commencé par le CAP. J'ai fait les années, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai passé par le BEP. Ensuite, j'ai enchaîné pour venir ici. J'ai fait le concours. J'ai fait 2 ans ici. J'ai choisi la filière VRD, voirie et réseaux divers. C'est tout ce qui s'occupe des routes, des assainissements, des travaux de topographie, addiction d'eau et tout. Puis on a fait 2 ans. Et puis ensuite j'ai quitté, j'ai eu le diplôme. Alors j'ai décidé de continuer. Je suis allé au G15. Là-bas c'est le niveau supérieur quoi. On fait le BTS, brevet de technicien supérieur en génie civil. Ça englobe tout quoi.
Mais alors le BTP, pourquoi le BTP ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste sur votre avenir professionnel ?
Ouais. En fait, le BTP ça ouvre beaucoup de portes. Parce que l'Afrique, bien le Sénégal, Dakar, tout est à construire. Il y a les routes à faire, les additions eau, les travaux de VRD, l'électricité et tout. Et tout ça, ça fait partie du milieu du BTP.
Et vous n'avez pas été tenté par l'université, la vie de bureau ?
Peut-être à un certain moment, mais quand je suis passé par ici, j'ai vu la pratique. Et puis la pratique, il y a l'esprit libre, quoi. Et nous, on est des hommes libres. On est plus créatif quand on est dehors que quand on est sur un bureau. Voilà. Et puis il y a moins de stress quoi. Moi je peux enseigner toute une semaine à travail sans ressentir le stress. Mais sur un bureau, une journée, je suis fatigué. Au fait, aux voisins, aux jeunes, je leur dis que pour l'homme, avoir un métier c'est intéressant quoi. Il y a le BTP qui est là, ça ouvre beaucoup de portes, il y a plein d'opportunités. On peut gravir les échelons, on peut être des techniciens supérieurs, des ingénieurs et tout. Et puis on s'arrête jamais de travailler quand on est technicien quoi. C'est un peu difficile quand on sort, mais ça va aller quoi. Le seul souhait que j'ai, une insertion rapide. Il faut que les entreprises, les chefs d'entreprise, les décideurs ouvrent les portes pour que les jeunes puissent accéder à ces milieux. Je suis confiant parce qu'il y a de l'avenir quoi. Il y a de quoi rêver. Voilà, il y a de quoi rêver.
Super. Il y a deuxième sur le porte-matériel.
Ça réagit beaucoup là autour de la table. Mamadou Tala, ministre.
Oui, il a tellement raison. Je crois que du début jusqu'à la fin, il a parlé de diplôme et il a également surtout terminé en disant que la finalité c'est être inséré, c'est l'emploi. Je crois que c'est ce que nous visons. Nous avions eu des difficultés dans certains métiers où il fallait tout simplement former en 6 semaines, 7 semaines des topographes, des conducteurs d'engins. La demande était là, mais il fallait que des jeunes aient le courage de se dire que je vais laisser l'enseignement supérieur ou l'enseignement général avoir mon métier. Et ces jeunes ont été formés ici dans ce centre et ils sont aujourd'hui employés. Et ça fait vraiment notre fierté parce que c'est un exemple.
Alors Franck Tonini, vous enseignez le commerce international à l'université de Lille 1. Vous intervenez depuis plusieurs années dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Vous avez créé un groupement de chefs d'entreprise français et sénégalais ici au Sénégal. Dans quel but ?
Alors les buts sont divers, mais effectivement on a créé un projet qui est soutenu par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais qui procède d'une démarche de co-développement. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à ce que des entreprises du Nord-Pas-de-Calais travaillent avec des entreprises sénégalaises pour atteindre des marchés, pour conquérir des nouvelles compétences, mais en axant cela sur la jeunesse. Et là où c'est très important, c'est que il y a un parallèle total entre l'implantation de l'entreprise, la compétence à créer et le partenariat. Et donc on a des entreprises françaises et des entreprises sénégalaises qui vont consacrer 50% de leur temps à la formation professionnelle ou au tutorat ou à l'accompagnement à la création d'entreprise. Mmh. Tout à l'heure, Madame Sagna disait on ne peut pas accueillir tout le monde. Eh bien, nous non plus, à Cluster, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et effectivement, quand on dit ni loser ni prédateur, c'est qu'on consiste, enfin, on considère, pardon, qu'on ne va chercher que des entreprises qui sont bonnes, qui sont excellentes dans leur domaine. Il y a deux exigences, l'excellence économique et l'exemplarité éthique. C'est-à-dire qu'on est bâti sur des valeurs très forte. On considère que l'Afrique ne se conquiert pas, elle se mérite, et qu'elle se mérite avec les meilleurs, et qu'on s'inscrit dans la durée. Et pour cela, une entreprise qui veut être soutenue par notre démarche, eh bien, elle doit consacrer 50% de son temps à la jeunesse. Mmh. Et
mais
pourquoi,
les,
en fait...
Les PME en région Nord-Pas-de-Calais, elles rêvent de l'Asie.
Ah, l'Asie, elles en ont rêvé. Mais beaucoup en sont revenus, pour celles qui n'ont pas disparu, de trop y être allées. Et elles considèrent qu'effectivement, le continent de proximité, c'est l'Afrique, que l'Afrique se développe. Et qu'effectivement, il y a des marchés. Mais ces marchés, nous, on considère qu'il y a différentes manières de l'aborder. Et c'est en misant sur la jeunesse et en misant sur la compétence. On ne peut pas s'établir durablement. Vous ne pouvez pas être bon dans votre domaine. Et nous, on ne cherche que des entreprises qui sont efficaces si, en fait, vous ignorez la compétence.
Alors...
Et la compétence se marie de l'excellence économique.
Alors justement, autour de la table, il y a un couple de PME avec une complicité incroyable. Hein. Yves Jolibois, donc spécialiste des travaux en hauteur. Abdou Fall, vous avez une entreprise, vous êtes chef d'entreprise. Votre entreprise s'appelle la Cosélec. C'est une entreprise familiale qui a été fondée par...
C'est une entreprise qui a été fondée à l'époque par mon père et qui par la suite a eu le soutien d'une grande entreprise française qui s'appelait Dufour, dont le propriétaire était l'ancien président de la Chambre de commerce du Nord-Pas-de-Calais.
Vous dirigez 56 personnes aujourd'hui.
Oui, exactement.
C'est ça. Donc, entreprise, vous bâtissez des concessions électriques rurales.
Oui, exactement.
C'est comme ça qu'on peut dire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, le taux d'électrification en milieu rural est très, très faible. Aujourd'hui, on aimerait, avec une coopération étrangère, agrandir le réseau sénégalais pour permettre justement un développement, parce que le développement passe surtout par l'énergie et l'installation d'usines et permettre aux gens de décentraliser un petit peu Dakar qui est très 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 engorgé, parce que le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar, c'est toute la sous-région.
Mais alors concrètement là, que vous apporte François-Yves Jolibois, ancien alpiniste, spécialiste de travaux en hauteur?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille en hauteur, le réseau se fait en aérien.
Électrique,
oui. C'est des câbles qui sont à peu près 12 mètres de hauteur en moyenne tension et à peu près 9 mètres en basse tension pour la distribution. Aujourd'hui, dans le partenariat qu'on a avec les entreprises françaises, il y a des méthodes de travail et une technologie qu'ils ont en plus de ce qu'on a. C'est une méthode de travail qui nous fait gagner du temps et qui nous fatigue un peu moins par rapport à ce qu'on avait avant qui sont assez rudimentaires.
La sécurité également.
Et la sécurité aussi également. Très important, parce que c'est quelque chose qui est assez négligé aujourd'hui dans le métier au Sénégal. C'est un plus que nous apportent aujourd'hui les entreprises françaises.
François-Yves Jolibois, donc directeur du réseau JAD, travaux en hauteur. Votre entreprise a été créée en 98, maintenance de bâtiments avec technique d'escalade, puisque vous êtes un ancien alpiniste. Que vous apporte Abdou Fall concrètement là?
Alors concrètement, il m'apporte une connaissance du marché. Puisque ce qui est vraiment important, c'est de pas arriver dans un pays étranger en leur expliquant comment est-ce qu'il faut qu'ils travaillent, mais bien écouter les personnes qui y sont pour comprendre en fait quels sont leurs besoins, que ce soit au niveau technique, donc par rapport à la sécurité, mais également sur certaines compétences comme la soudure certifiée, qui sont des choses que nous on maîtrise parfaitement. Abdou a tout de suite parlé en effet des innovations, donc nous c'est aussi notre savoir-faire et notre vraie compétence en France. Donc en effet, on est toujours à la pointe de la technologie. Ici, on est vraiment pour former des jeunes dans une profession où 80% de la main-d'œuvre est intérimaire. Moi, j'ai 100% de CDI dans mon entreprise parce que justement, j'investis plus de 20 000 euros de formation par gars.
Il y a beaucoup à faire sur la sécurité.
En Afrique comme en France, c'est juste qu'on n'est pas en effet tout à fait au même niveau, mais la culture d'entreprise est très intéressante ici. En effet, on a affaire à des gens qui sont, d'après moi, d'un très haut niveau. Donc aujourd'hui, c'était une question qu'ils ne se posaient même pas. Mais à partir du moment où ils vont se poser la question uniquement parce qu'on les sensibilise justement par nos journées sécurité, à partir du moment où ils comprennent que c'est possible, je pense que ça va aller très très vite.
Abdou Fall, sur la question des compétences, est-ce que aujourd'hui les entreprises sénégalaises se sentent suffisamment concernées par la qualité des compétences, très honnêtement?
Écoutez, je pense que En tant que jeune chef d'entreprise, on a énormément de difficultés sur certaines compétences parce qu'aujourd'hui, on a des lacunes technologiques au Sénégal.
Mais je crois qu'on est conscient de ce qu'il vient de dire. On n'a pas toutes les compétences qu'il faut au moment où il le faut, mais nous sommes en train de faire aussi un accompagnement dans la formation continue. On peut être dans une entreprise et être formé, continuer à être formé.
Bien sûr.
Je crois qu'il y a des organismes qui sont ici. L'Office national de la formation professionnelle accompagne pour donner des compétences nouvelles par rapport aux difficultés que les entreprises peuvent se poser.
7 milliards de voisins, ça se passe chez nous à Dakar, à Djamena Diop, sur RFI.
On est ensemble.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, émission enregistrée à Djamena Diop. Nous parlons de l'emploi des jeunes, de l'enjeu de la formation professionnelle et technique pour les jeunes, puisque ici nous sommes dans un centre de formation au métier du bâtiment, donc du BTP. Franck Tonini, on parlait de cette zone intermédiaire finalement qui n'est pas couverte aujourd'hui, sur laquelle il manque des compétences. Vous vouliez réagir, hein ?
Oui, je voulais simplement réagir pour dire que l'acquisition d'une compétence n'est jamais une dépense, c'est toujours un investissement. Et ça, c'est vraiment très surprenant ici, et peut-être plus vrai ici qu'ailleurs. Je m'explique. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles me disent ? Elles me disent qu'effectivement, elles sont portées par une croissance, mais que cette croissance, elle serait multipliée par 2 ou par 3 si jamais elles avaient les compétences. Et donc, c'est plus facile ici, dans une économie en émergence, de parler de compétences parce que c'est la compétence individuelle qui nourrit la croissance collective. Et ça, les entreprises l'ont tout à fait compris. C'est moins vrai en Europe, où dans des économies saturées, la compétence ne génère plus forcément de la croissance. Et les mentalités évoluent. C'était pas facile avant, c'est chaque jour un peu plus facile d'être les avocats de la compétence. Maintenant, la compétence, où on la met ? Alors effectivement, soit on la met que dans des grands groupes, et dans ce cas-là, eh bien, c'est une croissance qui appartiendra à d'autres, à des extérieurs. Soit, et c'est le choix qu'on a fait, nous, au sein de Cluster, c'est une croissance inclusive, c'est une croissance partagée. Mmh. Et effectivement, eh bien, c'est ce ventre mou, c'est cette économie
intermédiaire. À l'heure actuelle, à l'université, on a des licences pro BTP organisées par Eiffage, Vinci, à l'UCAD, par exemple, l'université Charenta Diop.
Bien sûr, et on peut s'en féliciter, parce que ça démontre que les grands groupes...
C'est pas votre technique, à vous ?
Non, nous, en fait, on représente des PME, des PMI qui souhaitent s'implanter de manière durable et responsable en Afrique. Et c'est pour ça qu'elles travaillent 50% de leur temps avec des entreprises.
J'ai entendu les grands groupes, eux, quand c'est pas durable, quand c'est plus rentable, ils partent.
Non, je dis pas ça. Ils ont leur logique économique. On a des logiques complémentaires. Donc l'objectif, c'est pas non plus d'opposer les grands et les petites. Ça voudrait rien dire. Pourquoi ? Parce que on peut considérer que des PME, des PMI peuvent être des sous-traitantes de certains grands groupes. On n'a pas les mêmes logiques économiques. On fait du co-développement, c'est-à-dire que on veille à chaque jour que tous les partenaires aient une relation réciproque. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont très heureuses de venir en Afrique parce qu'elles découvrent aussi de nouveaux modes de management, elles découvrent une économie en croissance, et les entreprises sénégalaises sont très heureuses de venir aussi quelquefois en France parce qu'elles découvrent une autre structuration, une autre organisation. On se nourrit de notre diversité.
Le Sénégal, c'est pas l'avenir pour les PME françaises, très honnêtement, aujourd'hui. C'est pas le pays d'Afrique où il y a la plus grosse croissance, loin de là.
Alors, ça s'appelle Cluster Sénégal-Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres pays qui ont des potentialités. On peut pas être partout. Si vous voulez, je pense que lorsqu'on voit les dirigeants canadiens, les dirigeants turcs qui sont là en nombre, sont pas forcément tous des philanthropes. Donc notre erreur, c'est peut-être d'avoir une Afrique de retard et de considérer que effectivement on analyse l'Afrique avec notre propre grille d'analyse. Alors qu'en fait ici, tout va plus vite. Je vais prendre un exemple. Un tiers du carburant est payé par le téléphone portable.
Via le mobile banking,
via
vous voulez dire,
c'est
ça ?
Mobile.
Virtuellement, donc.
Et donc, en fait, aujourd'hui, on nous demande ici des applications qu'on n'a pas en France parce que ça n'existe pas. Et donc, les transferts d'argent, la monétique, le paiement par le portable est beaucoup plus répandu à Dakar qu'il ne l'est à Paris.
Parce que les gens sont aussi beaucoup moins bancarisés. Donc, ça a été
c'est comblé un vide. En tout cas, une évolution
de l'économie. Alors, aujourd'hui, donc, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a d'immenses besoins pour l'emploi des jeunes. Pourquoi on n'a pas plus de centres comme celui que dirige Mme Sania, donc vous vous dirigez à Wandia et Sania, un centre de formation au métier logistique et portuaire. Il y a un centre du BTP dans lequel on est aujourd'hui. Il y a un centre de l'agroalimentaire avec beaucoup d'investissements dans les machines. Monsieur Mamadou Tala, ministre de la formation professionnelle, pourquoi il n'y a pas plus de centres de ce type ?
l'équipe aujourd'hui.
Moi, je crois que c'est la culture de la formation d'une manière générale et de l'éducation au niveau du Sénégal, tout comme en France. Ce qui était développé, c'est plutôt l'enseignement général, l'enseignement théorique, depuis 1960 jusqu'à présent. Ça ne fait pas très longtemps qu'il y a eu cette volonté affirmé politique pour donner une réponse par rapport au chômage, qu'il y a eu cette ambition d'installer beaucoup de centres de formation professionnelle.
Et sous-entendu, ça fait pas très longtemps aussi que les bailleurs de fonds vous suivent là-dessus.
Exactement, je crois qu'on est, en tout cas au niveau du ministère de la formation professionnelle, on est accompagné par plusieurs bailleurs. Il y a l'AFD, ici on est dans
l'Agence
un centre
française de développement.
Française de développement, c'est un centre donc pratiquement tout fait, tout créé par l'AFD, plus les deux autres que vous dites, les trois qui s'installent dans le machinisme agricole où il faut accompagner donc toute la zone nord.
Alors, il faut quand même dire aussi que ces centres, ça coûte très cher. Le centre d'agroalimentaire, c'est 3 millions d'euros d'investissement pour construire le centre, l'équiper pour 160 étudiants.
Oui, mais c'est aussi une des conditions sine qua non pour qu'on puisse avoir des compétences pour répondre à ces besoins. Il ne suffit pas d'avoir donc un tableau et un marqueur et se dire qu'on fait de la formation professionnelle. 93% des formations des écoles privées orientent leur formation dans le tertiaire. Transport, logistique, comptabilité, gestion, beaucoup de masters. Mais c'est ça qu'il faut réorienter.
Vous manquez de moyens financiers néanmoins. Le budget de l'enseignement professionnel du ministère, est en augmentation pour 2015?
Oui, il est en augmentation. Disons pour 2015, il a un peu baissé parce qu'en avant, on avait beaucoup investi. Mais on était à 26 milliards. Salaire, équipement et tout compris, mais aujourd'hui on est à 30 milliards.
Que devient l'argent? L'État ne reverse que 15% de ce qui est prélevé aux entreprises sur la formation professionnelle, alors que c'est une taxe de l'enseignement professionnel.
C'est même 10%, pas 15%. Il y a trois jours, nous étions en train de faire le bilan du PSE. Et en ce moment, la demande, la demande extrêmement forte était de pousser, d'augmenter donc ce taux, de passer de 10% à 25% ou 50%. Et ça, pour une fois, c'est plutôt les partenaires, les entrepreneurs, donc le patronat qui a appuyé et qui a demandé. Mais au début, c'était pas du tout ça. Même le patronat au début, il n'était pas pour. Il y a aussi la formation continue. Parce qu'en fait, cette contribution forfaitaire à la
C'est encore les entreprises qui payent pour venir faire former leurs salariés, ici par exemple dans le bâtiment, l'agroalimentaire, la logistique, etc.
Et l'État aussi intervient.
C'est combien une journée, par exemple une entreprise qui veut former un salarié pour qu'il sache conduire une grue ou un engin, Madame Sania, qui vient se former chez vous, c'est combien à la journée?
Pour un groupe de 6 participants, c'est environ 300 000 jours.
500 euros par jour pour un salarié. D'accord, c'est pas rien quand même pour une entreprise.
Mais en fait, l'entreprise ne paye pas tout. Mais c'était plutôt le Fondef qui s'occupait de ça. Donc c'est un autre organisme qui était là et qui accompagnait effectivement ces entreprises dans la formation continue des employés du secteur privé. Aujourd'hui, nous voulons passer à 25% pour encore accompagner. C'est pas seulement les centres qui le prennent, c'est pas aussi seulement les entreprises. Donc les entreprises payent une partie, à peu près
25%
les entreprises payent. Les 75% c'est payé aussi par l'État. Pour la formation individuelle. Le droit donc à la formation continue, elle est essentielle. Je crois que quand on va passer à 25%, peut-être qu'on va augmenter donc ce taux.
Et on a exactement la même chose en France.
Hein. Oui.
Moi aujourd'hui, par rapport à ce que je donne pour la formation et le budget qui m'est retourné en termes de formation, j'ai en effet des rapports qui sont à peu près les mêmes. Et aujourd'hui, j'investis dans ma boîte à peu près 40 fois en formation le budget qui m'est reversé par mon OPCA. Donc, et
OPCA,
en plus,
par l'État.
Organisme, tout à fait, oui. Et en plus, on a une modification cette année. Maintenant, pour revenir sur les entreprises du Nord-Pas-de-Calais, je pense qu'aujourd'hui en Europe, il faut être, comme on dit, sur des niches d'activité. Et que donc tout ça, ça passe par de la compétence vraiment importante au niveau des salariés. Et c'est ça qui nous intéresse en venant en Afrique. C'est que là, on n'est plus obligé d'être sur des niches parce qu'en effet, on est sur un marché qui se développe. Et de toute façon, ce sera forcément les chefs d'entreprise qui vont, parce qu'ils prennent certains marchés, décider de former des compétences particulières. Ce qui est important, c'est d'avoir des centres de formation qui permettent d'acquérir ces compétences. Mais ça restera avant tout une volonté des entreprises et des entrepreneurs de vouloir former leur personnel. Et c'est là où, en effet, je ferai une petite différence entre les grands groupes qui n'ont, à mon avis, pas du tout la même vision que les entreprises familiales sur la formation de leurs collaborateurs, l'esprit d'équipe, la culture d'entreprise, qui, pour moi, est diamétralement opposée.
Vous parlez la même langue tous les deux avec Abdou Fall, en fait, ensemble.
On parle carrément la même langue et, c'est aujourd'hui une amitié profonde que nous a permis la région Nord-Pas-de-Calais par rapport à ce qu'ils ont voulu lancer. C'est vraiment très intéressant.
Bah écoutez, pour moi, la compétence n'a pas de prix. Vous gardez une personne pendant 25 ans, 30 ans, et on paye une formation de départ qui, parfois, est assez chère. Bon, l'inconvénient, peut-être que parfois, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, après ayant eu leurs compétences, s'en vont. C'est les PME et les PMI qui forment les bons éléments que les grandes entreprises récupèrent après.
Mais pourquoi vous leur faites pas signer une clause le salarié s'engage à rester dans votre entreprise parce que vous lui avez payé une formation continue ?
Bah écoutez, on n'a pas les mêmes possibilité que les grandes entreprises d'augmenter les salaires, vu que nous, on est très serré sur nos budgets.
Mais ça vous fait mal au cœur, non, quelquefois?
Oui, bien sûr, parce que des fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de salariés, on ne parle même plus de salariés, on parle de partenaires. Mm. Parce qu'aujourd'hui, quand on embauche une personne, quand on a des petites PME, on se côtoie tous les jours. Les familles se connaissent, les gens se connaissent. C'est pas comme la pyramide des grandes entreprises où il y a
un patron. Ça les empêche pas de vous lâcher du jour au lendemain pour aller voir la concurrence.
Oui, mais vous savez, il y a une réalité économique aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils demandent à évoluer. Peut-être que cette évolution, on la veut. Mm. On veut le faire pour eux, mais on n'a pas cette possibilité économique.
Franck Tonini, donc vous avez monté ce cluster Afrique de l'Ouest avec l'appui de la région Nord-Pas-de-Calais. La région Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui a beaucoup souffert de la crise, de la désindustrialisation, d'ailleurs bien avant 2008. Est-ce que cette souffrance, cette capacité aussi à s'accrocher, à survivre pour les PME qui durent, c'est une richesse pour un continent comme celui-ci ?
Indéniablement. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup parlé de valeurs. Il y a l'éthique, il y en a une autre aussi qui est importante, c'est la solidarité. Notre histoire économique dans le Nord-Pas-de-Calais, elle nous apprend que seul, on n'est rien. Et que effectivement, face aux grands groupes, face à la mondialisation, les PME, les PMI, elles ne peuvent vraiment exister que si elles mutualisent. Cluster, c'est un espace de solidarité avec des valeurs. Et c'est vrai que le fait qu'on ait une histoire industrielle qui ait connu des souffrances, qu'on ait pu avoir de la résilience, qu'on ait pu s'en sortir parce que on a constitué aussi tout un tissu de PME, de PMI, qui se sont structurés, qui se sont fédérés, où en fait la solidarité n'est pas qu'un mot, mais c'est une réalité économique. Eh bien aujourd'hui, cette histoire qu'ont connue les entreprises du Nord-Pas-de-Calais, les PME, les PMI, eh bien, elles se rejoignent naturellement avec les PME, les PMI sénégalaises. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a connu des souffrances de part et d'autre des continents, que seul, que petit, eh bien, ça peut être difficile, mais que lorsque vous faites un collectif de PME, de PMI, eh bien, vous mutualisez vos moyens, vous êtes réactifs, plus réactifs que les grands groupes, et donc, effectivement, un petit face à un gros, souvent le petit père, un collectif de petits qui devient moyen et solidaire, là vous gagnez.
Ouais. Un mot de conclusion pour chacun de nos invités, vos préconisations aux uns et aux autres, en fonction de ce que vous représentez, de ce que vous vivez tous les jours pour l'emploi des jeunes. Madame Samia, directrice d'un centre de formation.
Aujourd'hui, on forme dans des métiers qui sont reconnus et qui donnent des compétences, qui sont recherchées. L'important, monsieur le ministre l'a dit, c'est de décentraliser partout au Sénégal, essayer de démultiplier les centres, mais avec une gouvernance centrale. Ça voulait réduire les coûts et ça pourrait aussi aider les jeunes à rester dans leur localité et bénéficier des compétences.
Plutôt que de monter à la capitale. Voilà. François-Yves Jolibois.
Nous, on est vraiment très très heureux d'être au Sénégal et justement de pouvoir transmettre et de participer à du co-développement, parce que en effet je pense que si l'Afrique travaille en sécurité et a une meilleure vision environnementale, ce sera bien plus performant que un certain grand pays asiatique qui n'est pas, à mon avis, aller dans la bonne direction. Et puis je me rends compte que je vais aussi modifier un petit peu mon discours pour les jeunes. Parce qu'en fait, c'est un petit peu mon histoire que je viens d'entendre depuis une heure. Je suis allé en fac pour, au bout de 5 ans, finalement, n'avoir que le bac. Une maladie a fait que j'ai arrêté le sport. Et je me suis retrouvé à signer un papier affirmant que je n'avais pas le bac pour pouvoir passer un CAP. Et donc, finalement, c'est peut-être moi aussi, il y a une vingtaine d'années, en allant chercher un emploi à bac moins 3, qu'aujourd'hui, dans notre équipe, on est 65 personnes à avoir trouvé un travail. Et en tout cas, chez nous, les gens ne partent pas pour les grandes entreprises et veulent participer à une véritable aventure, puisque c'est avant tout, à mon avis, une aventure humaine que le monde de l'entreprise.
Voilà, c'est comme ça que vous vous définissez comme patron. On est 65 à avoir trouvé un travail.
On est 65 à avoir créé notre travail et on espère bien en créer bien
ça
d'autres.
Ça s'appelle patron de PME. Abdou Fall.
Aujourd'hui, j'invite aussi l'État à soutenir les PME, parce qu'aujourd'hui aussi, les entreprises souffrent financièrement. Si l'État nous aide à alléger justement cette assiette fiscale, ça peut nous permettre d'évoluer.
Franck Tonini, en quelques mots.
Très rapidement, de dire que tout est dans la synthèse et qu'il faut peut-être arrêter les oppositions. Le Nord et le Sud ont un destin commun, que l'excellence économique et l'exemplarité éthique se marient et qu'il n'y aura pas d'avenir sans la jeunesse.
Mamadou Tala, ministre de la Formation professionnelle.
Alors, juste pour dire que l'espoir quand même est permis. Nous n'avons pas seulement que ces 3 centres de formation professionnelle. Ce sont des 3 centres dans des secteurs déterminés. Il y en aura encore 3 bientôt. il y a 7 ou 8 qui sont en train d'être créés, qu'on appelle des centres de proximité, sans compter aussi tout un réseau de lycées qui existent. Ça, c'est la première remarque. Deuxième élément est que nous sommes aussi en train de faire de l'apprentissage rénové, où nous sommes en train de former 10 000 jeunes apprentis par an, et eux tous, donc, ils seront certifiés. La VAE est installée au Sénégal, la validation des acquis de l'expérience, du maître artisan au compagnon à l'apprenti. Et enfin, dire que l'espoir est permis parce que nous avons beaucoup de partenaires, que ce soit l'AFD, la Banque mondiale, au niveau de
la
coopération canadienne, qui investissent beaucoup. Et pour une fois, nous avons un projet d'envergure qui commence aujourd'hui, qui est pour l'employabilité des jeunes. C'est un fonds de financement qui organiserait tout ça, qui va accompagner donc les jeunes sortant de nos centres pour qu'ils créent eux-mêmes leur petite
émotion. Et bien, ça sera justement le sujet de l'émission de demain, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Merci à vous tous
beaucoup.
Et toutes, ministres, chef d'entreprise, enseignant. Merci à la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir co-organisé cette rencontre avec le cluster Afrique de l'Ouest. À la technique, à la réalisation, Mathieu Salabert. Et demain, donc, toujours à Diamniadio, au Sénégal, des jeunes, ils ont appris un métier technique, ils raconteront leur parcours, parfois leurs galères pour trouver un emploi. Leurs attentes peuvent-elles correspondre avec celles du marché de l'emploi? Réponse demain, chez 7 milliards de voisins. Et d'ici là, les voisins, bien sûr, tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. We'll be right back.